Dico.
La mort de Lola aurait-elle pu être évitée? La question tourne en boucle ces derniers jours. Mise en cause par la droite, le gouvernement a reconnu hier qu'il devait faire mieux sur les expulsions d'immigrés en situation irrégulière. C'était le cas de la tueuse Dabia B. Elle était sous le coup d'une OQTF, une obligation de quitter le territoire français. Alors la mesure est très critiquée car, en effet, vous allez le voir, peu exécutée. Bonjour Vanessa Edberg.
Bonjour à tous.
Bienvenue sur Europe 1. Vous connaissez parfaitement les OQTF. En effet, vous êtes avocate, spécialiste en droit des étrangers. En termes très simples, une OQTF, Vanessa Edberg, qu'est-ce que c'est?
Alors, une OQTF, c'est une obligation de quitter le territoire français. C'est une décision administrative qui est prise par le préfet.
Oui.
Voilà, du lieu de résidence du clandestin. Et cette décision est ensuite appliquée par les forces de l'ordre, le cas échéant.
Alors, c'est clandestins qui vont recevoir une OQTF quand ils sont découverts comme tels, ou bien un demandeur d'asile à qui l'asile a été refusé.
Tout à fait. Une OQTF peut être délivrée dans des cas très différents, mais effectivement, ça peut être une situation irrégulière ou bien une absence de renouvellement.
On va aller au cœur du sujet, Vanessa Edberg. Vous dites qu'en 10 ans de carrière dans ce métier, aucun de vos clients n'a été éloigné. Tous ceux qui étaient sous le coup d'une OQTF ont réussi à la faire tomber grâce à vous.
Alors, c'est pas tout à fait ça. Ce qui se passe, c'est qu'effectivement, donc les clients viennent nous voir pour exercer un recours, c'est-à-dire le tribunal administratif, et contester cette décision qui peut être contestée pour des motifs erronés sur lesquels le préfet se serait basé, ou bien sur une situation qui a évolué depuis. Toujours utile que pour être précise, en général, les recours devant le tribunal administratif restent infructueux. En revanche, une OQTF après un an, elle est caduque. C'est-à-dire qu'après un an, se fasse discret, après un an, je peux tout à fait formuler une nouvelle demande de renouvellement auprès de la préfecture.
C'est-à-dire que l'OQTF m'oblige à volontairement quitter le pays sous 30 jours, je vais me faire discret comme vous le dites, je disparais dans la nature et au bout d'un an, la situation revient à zéro?
Alors oui, alors pour rappel, il y a quand même deux sortes d'OQTF.
C'est une sorte d'amnistie finalement.
Il y a l'OQTF qui est effectivement assortie d'un délai qui est basé sur le principe d'un départ volontaire où le clandestin doit prendre ses dispositions pour organiser son départ et retourner dans son pays d'origine. Et il y a ce qu'il me semble être dans la hiérarchie des priorités encore plus important, les OQTF sans délai où là on a 48 heures pour partir et pour formuler un recours.
Alors, il y a énormément de situations. Ces OQTF, on sait que les préfets on prononce au bas mot 120 000 par an pour un taux d'exécution absolument dérisoire. C'était 22% en gros il y a 10 ans, 15% avant Covid, aujourd'hui moins de 10%. Ça, je vous donne les chiffres que l'on lit actuellement dans la presse. Mais vous dites que ces chiffres, il faut les prendre avec des pincettes. Pourquoi?
Alors moi, je pense qu'effectivement, il est très difficile d'avoir des données consolidées sur les éloignements effectifs.
Parce que ça, ce sont les chiffres donnés par les préfectures et le ministère de l'Intérieur.
Je n'y crois pas du tout. Voilà, pour être très sincère, je n'y crois pas du tout. Parce qu'encore une fois, en 10 ans de carrière, personne n'est jamais retourné dans son pays.
Ah, et vous dites que quand à 10%, on surestime le nombre de OQTF exécutés.
Sincèrement, je pense, oui.
Donc c'est quoi? C'est de l'ordre de 5%?
J'aimerais connaître les sources. Moi, sur les chiffres, j'aime connaître les sources. J'aime être précise sur les chiffres. Voilà, donc vous me dites quelles sont leurs sources tout simplement pour se baser sur ces chiffres-là. Moi, c'est pas du tout ceux sur lesquels.
C'est la puissance publique, c'est le ministère. Donc on commence à douter des chiffres ministériels. Enfin, vous avez raison.
J'aimerais savoir quelles sont leurs sources.
Ouais. Mais comment on en est arrivé là? Est-ce que est-ce que quand l'OQTF a été créé initialement, on a prévu un nombre important de recours pour permettre évidemment à celui qui est en situation clandestine sur le sol français de se défendre, ce qui paraît normal.
Bien sûr.
Mais on a l'impression quand même qu'au fil du temps, le droit s'est lui-même neutralisé avec une extension permanente du droit des clandestins dans ces situations-là.
Alors là, l'OQTF revient sur le tapis, mais je pense qu'il faut avoir une vision beaucoup plus globale du droit des étrangers. Encore une fois, la préfecture ne se conforme pas au droit. Je vous donne un exemple typique et infiniment important et j'appelle les membres du gouvernement à nous répondre sur cette question. Pour pouvoir, constitue une infraction pénale d'embaucher un sans-papier. En revanche, pour pouvoir être régularisé, nous devons produire 24 bulletins de paix. Est-ce que vous voyez l'incohérence entre les demandes administratives et la loi ?
Donc, en théorie, un employeur n'a pas le droit d'embaucher un clandestin, mais un clandestin, s'il peut produire 24 fiches de paye,
pourra être régularisé.
A tous les droits de se faire régulariser.
À une admission exceptionnelle au séjour, exactement.
Donc, comment on explique ces contradictions, Vanessa Edberg ?
Il ne l'explique pas. Je me suis déjà entretenue à plusieurs reprises avec différents membres du gouvernement et des politiques. Ils n'ont pas d'explication, malheureusement. C'est un désordre inouï. Et effectivement, je pense qu'il y a une réforme profonde à reprendre à la source. Mais il faut aussi se baser sur le droit communautaire. Parce qu'au niveau des droits des étrangers, nous sommes tenus à des directives, notamment la directive retour. Et nous ne pouvons pas faire l'impasse sur la conformité.
Qu'est-ce que c'est la directive retour ?
La directive retour, c'est notamment sur l'IRTF, donc l'interdiction de retour sur le territoire français, qui donne des mesures précises à laquelle la France doit se conformer. Et il est infiniment difficile pour nos politiques de pouvoir se conformer à ces directives et d'envisager de nouvelles mesures.
On pointe souvent du doigt le manque de coopération des nombreux pays d'origine, des migrants clandestins, notamment celui de l'Algérie, avec une très faible taux de délivrance des laissez-passer consulaires, mais c'est une toute petite partie du problème, si je vous ai bien compris.
Alors, selon moi, c'est une infime partie du problème. Oui. Encore une fois, les laissez-passer consulaires, c'est vraiment, je dirais, 0,1% des raisons pour lesquelles les étrangers ne sont pas éloignés de France.
Parce qu'en réalité...
Les raisons sont internes.
Le laissez-passer consulaire, c'est le dernier obstacle, si je puis dire, avant expulsion. Et avant, il y a un nombre d'étapes.
De raisons internes à la France qui font qu'effectivement, ils ne sont pas éloignés.
Vanessa Edberg, vous plaidez pour une réforme du droit des étrangers.
Bien sûr.
Qu'est-ce qu'il faudrait faire ? Simplifier, nettoyer, retour à zéro ? Quoi commencer, d'après vous ?
Déjà, on a commencé depuis quelques années, depuis le Covid, par une dématérialisation des dépôts, ce qui ne permet plus donc, aux étrangers d'avoir accès à la préfecture, c'est-à-dire qu'ils n'arrivent pas à prendre rendez-vous pour pouvoir faire leur demande de titre de séjour.
Les créneaux de rendez-vous en préfecture sont d'ailleurs l'objet d'un trafic. Vous avez des organisations qui prennent ces rendez-vous à l'avance et qui les monnaient et qui les vendent. Extrêmement cher d'ailleurs.
Tout à fait.
Donc ça c'est un point de départ.
Donc il y a une dématérialisation qui a commencé à être amorcée mais qui malheureusement n'a pas eu les effets escomptés. Donc effectivement il faudrait déjà que la préfecture se conforme au droit, constitue une infraction pénale d'embaucher un sans-papier. Il faut absolument que l'ensemble de ces mesures soit revu, que le procédé administratif soit revu et que enfin les instances judiciaires se prononcent dans les délais. Mais les raisons pour lesquelles ce n'est pas le cas, c'est un manque de moyens significatifs. Évidemment, les magistrats ne peuvent pas traiter dans les délais les recours qui sont formulés.
Merci beaucoup d'être venue nous voir, Vanessa Edberg. On a fait qu'effleurer l'ampleur de ce sujet, mais merci de nous en avoir livré quelques clés. Je rappelle que vous êtes spécialiste en droit des étrangers. Merci d'être venue ce matin sur Europe 1.
Merci.
Bonne journée à vous. Il est 7h20.